il les donna. Première fois que le terme apparaît. Bon, je sais bien qu'on traduit généralement par plaça ou mi, hein, mais il les donna, le terme est assez fort. Il les donna, Dieu, au firmament des cieux pour illuminer sur la terre, pour gouverner le jour et la nuit, et pour opérer séparation entre la lumière et entre la ténèbre. Et il vit Dieu que c'est bon. Et fut soir, et fut matin, jour quatrième. Vous voyez que pour le juif, le jour commence le soir. Il commence pas le matin. C'est d'abord la ténèbre, et puis la lumière. C'est pas le contraire. Nous voyons généralement les choses contraires. C'est d'abord la lumière, c'est-à-dire d'abord ce qui nous paraît bon, et puis ce qui nous paraît moins bon, la ténèbre. Dans la Bible et dans la manière de percevoir les choses, les journées en Israël, c'est le contraire. C'est d'abord la ténèbre. En fait, il y a tout un passage à vide, pourrait-on dire, avant d'embrayer sur la lumière. Et il dit Dieu, ah, ça reparaît, c'est le sixième dit, et il dit Dieu, grouille les eaux d'un grouillement d'êtres vivants, et que volatiles volent sur la terre, et sur la face du firmament des cieux. Et il créa, jusqu'ici c'était il fit, maintenant c'est il créa. Il faut encore se poser la question hein, sur le créa. Il créa Dieu les grands monstres et tout être vivant, rampant, dont grouillent les eaux, selon leur espèce, et tout volatile ailé, selon son espèce. Il vit Dieu que c'est bon. Et il les bénit. Encore apparition d'un nouveau mot. Il les bénit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il les bénit Dieu en disant « Fructifiez et multipliez et emplissez les eaux dans les mers et que le volatile se multiplie sur la terre, dans la terre plus exactement. » Et fut soir, et fut matin, jour cinquième. Et il dit Dieu « Fasse sortir la terre être vivant, selon son espèce, bétail, et reptile, et vivant de terre, selon son espèce. » Et ce fut ainsi. Et il fit Dieu le vivant de la terre, selon son espèce, et le bétail, selon son espèce, et tout reptile de l'humus, selon son espèce. Tiens, apparition d'un autre terme. À côté de terre, voyons apparaître le mot qu'on peut traduire par humus, par glèbe. Mais c'est un mot différent. Donc c'est intéressant. Selon son espèce, tout reptile de l'humus, selon son espèce. Et il vit Dieu que c'est bon. Et il dit Dieu. Ah voilà, ça vient de plus en plus. Faisons un humain. Je garde le terme de humain. Qui a une consonance avec humus, pour qu'on voit bien qu'il y a un jeu de mots aussi dans l'hébreu. L'humus, la glèbe, le sol, se dit Adama, et l'homme se dit Adam. Hein, Adam, Adama, pas chouver et verchou, mais enfin ça vient de la même racine. Donc il y a un jeu de mots. Faisons un humain, un Adam si vous voulez, mais c'est un humain, c'est un collectif, un terreux. Si vous voulez encore, à notre image comme notre ressemblance. Ici, vous voyez que Dieu parle de lui-même. Et c'est un pluriel. Faisons. Il se parle à lui-même en disant faisons. Étrange cette affaire-là. Hein? À notre image, il ne dit pas à mon image, comme notre ressemblance. Qu'il maîtrise le poisson de la mer, ce n'est pas la même chose que gouverner, maîtriser. Qu'il maîtrise le poisson de la mer et le volatile des cieux, et le bétail, et toute terre, et tout reptile rampant sur la terre. Et il créa, encore une fois c'est créa ici, et il créa Dieu, l'humain, à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, première fois qu'il utilise le terme, mâle et femelle, il les créa. Hein? Ce singulier est un pluriel. L'humain est un pluriel. Il les créa. Et il les bénit. Ah, encore une fois. Et il les bénit, Dieu, et il leur dit. Ah, c'est la première fois que Dieu s'adresse à quelqu'un. Jusqu'ici, il a dit. Mais maintenant, il leur dit. Il leur dit Dieu. Tiens, il dit des choses assez semblables à ce qu'il a dit aux animaux, hein. Fructifier et multiplier, le fruit toujours qui revient, hein. Le fruit, hein, comme les arbres fruitiers, les arbres portaient leurs fruits. N'oubliez pas que l'arbre est toujours, hein, le symbole de l'homme. Fructifier et multiplier et emplissez la terre et soumettez-la. Soumettez-la. Et maîtrisez le poisson de la mer et le volatile des cieux, et tout vivant rampant sur la terre. Il y a une soumission de la terre, et puis une maîtrise sur les animaux. Et il dit Dieu. La quatrième fois dans ce sixième jour. Et il dit Dieu, voici, je vous donne, voilà le donné qui revient, je vous donne toute herbe semence en semence qui est sur la face de toute la terre, et tout l'arbre qui a en soi un fruit d'arbre semence en semence, pour vous, il sera à manger. Et pour tout vivant de la terre et pour tout volatile des cieux, et pour tout rampant sur la terre qui a en soi être vivant, toute verdure d'herbe sera à manger. Régime végétarien, comme vous voyez. Important. Et ce fut ainsi. Et il vit Dieu tout ce qu'il avait fait, et voici, c'est très bon. Maintenant, c'est très bon, très bon. La première fois qu'on dit très bon. Et fut soir. Et fut matin, jour sixième. Vous comprenez bien que ce texte a été élaboré, hein, savamment. C'est pas du tout un hasard. On raconte pas les histoires comme dans un rêve. On les raconte en ayant bien pesé tous les mots. Alors, qu'est-ce que nous avons ici, hein, dans... Eh bien, ici, nous n'avons plus de la séparation, mais on a de l'ornementation. On va orner tout ce qu'on a. Ornementation. Si vous voulez, dans la première partie, c'était plutôt des immeubles, hein, non amovibles. Tandis qu'ici, ce sont, hein, on peut les poser, on pourrait les mettre ailleurs. Hein, ce sont les meubles. Vous organisez votre maison, hein, votre monde. Hein, alors, on sépare les choses, on tire les affaires des caisses et on les met dans des endroits différents. Et puis alors, on va ornementer. Alors, cette ornementation se fait comment ? Eh bien, de nouveau, vous avez... Attendez, on a mis des barres comme ça, on va continuer, pour être un peu cohérent. Nous avons 4e jour, 5e jour, 6e jour. Hein, on en arrive au 6e. Et donc, on a 5e œuvre, 6e œuvre, et bien sûr, 2 œuvres correspondantes aux 2 premières, hein, 2 œuvres pour le 6e jour. Vous commencez à voir qu'il y a une petite cohérence dans tout ça. Effectivement, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des luminaires, des lampadaires, si vous voulez, hein, luminaires. On va mettre des lampadaires pour éclairer la maison, et donc ça va faire la différence entre le jour ou la nuit, et le jour, non, c'est d'abord le jour, il met d'abord le jour ici, c'est le plus important, et puis la nuit, avec la lune et les étoiles. Hein. Donc soleil, lune, étoile. Ouais, luminaire, lumière, ténèbres, c'est curieux, hein, qu'on mette de la lumière sans avoir de luminaire. Hein. Donc, la lumière, c'est une chose, et la luminaire, c'est une autre. Là, il y avait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et effectivement, qu'est-ce que nous voyons dans, au jour 5e, eh bien, on nous dit « grouille les eaux d'un grouillement d'êtres vivants ». Et que tout volatile vole sur la terre, sur la face, et les grands monstres, tout vivant, rampant, et tout volatile ailé. Donc ce sont la mer et c'est le ciel. Là, il séparait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est-à-dire le ciel et la mer. C'est les cieux. Et ici, c'était les mers. Et bien maintenant, on va meubler tout ça. Et nous allons avoir, dans les cieux, les oiseaux. Et dans les mers, les monstres marins, les poissons, etc. On a meublé. On avait des espaces, on les a meublés. Alors, de là, il y avait la terre et la mer. Et ici, qu'est-ce que nous allons avoir? Au sixième jour, c'est beaucoup plus long, vous voyez, ça va du verset 24 au verset 31. Il y a d'abord tous les vivants, tous les animaux, qui sont d'abord créés, les animaux, et les animaux terrestres cette fois-ci. Là, c'était les oiseaux et les poissons. Ici, ce sont les animaux terrestres de la terre. Il revient plusieurs fois sur le terme de la terre. Et puis, il y a l'humain. Et puis, il n'y a pas seulement l'humain. Il y a ce qu'il lui faut pour manger. Et puis, la nourriture. On va mettre toute nourriture. Très intéressant, ça. Très intéressant de voir que on va classer les animaux. Vous savez que dans la loi du Lévitique, il y a des animaux purs et des animaux impurs. Les animaux ont une importance assez grande, évidemment. Et il y a aussi les aliments purs, les aliments impurs, toute la manière de vivre, cachère. Tout ça est un système qui est présent dans la pensée de l'école sacerdotale qui a élaboré ce récit. Donc voilà un monde où on a séparé les réalités, et puis on a assigné dans ces cadres séparés les uns des autres, on a meublé tout cela et on a mis d'abord des luminaires, puis des animaux, oiseaux et poissons, au-dessus et en dessous, et puis au même étage que l'homme. Au même étage que l'homme, les animaux terrestres, et l'homme se trouve avec ses animaux terrestres, au milieu de ses animaux terrestres. Bon. Et alors, on va achever, car il faut bien une petite conclusion. Et la conclusion va des versets du chapitre 2, verset 1 jusqu'au chapitre 4, 2, 1 à 4, 4a plus exactement. Et dans cette conclusion, on va vous parler du septième jour. Septième jour. Avec l'instauration du sabbat, qui est en fait récente dans l'histoire d'Israël.
J'en fais cacher, là, ça remonte très haut.
Ça remonte vraisemblablement aux tribus. Il y avait leur tribu du désert, peut-être même avant, qui avaient leur manière propre de vivre, comme dans toutes les tribus, qui indiquent leur particularité, leur spécificité, en se nourrissant d'une certaine manière. Ce sont les tabous alimentaires que vous trouvez partout. Aujourd'hui, on a brisé ces tabous alimentaires, effectivement, parce qu'on a de la nourriture qui vient de tous les coins du monde. Mais au départ, et vous avez encore des vieilles personnes qui ne mangeront pas certaines choses. Des choses nouvelles, on va manger de ça. On ne mange pas de ça. Et encore, c'est la conscience d'appartenir à une tribu, à un clan, à une entité, quelle qu'elle soit. Il va se manifester dans la manière dont on le fait, ou dans ce qu'on mange, ou la manière de manger.
Ça sera sans doute accentué pendant l'exil, pour se distinguer. Ah,
tout à fait, forcément. Et bien sûr, c'est pour cela qu'après l'exil, on a insisté, le Lévitique s'est construit à ce moment-là, on a insisté sur les différences qu'il y avait. On ne mange pas comme les païens. On ne mange pas comme les païens, vous voyez. Mais c'est vrai que c'est une très très longue histoire. Vous pouvez lire dans le livre que le père Beauchamp a consacré, c'est un livre scientifique, mais a consacré justement au récit de la création. Il met tout bien en évidence. Il appelle ce livre « Création et séparation ». C'est sa thèse de doctorat. Et justement, il essaie de voir comment ce type de séparation préside à la séparation des différents aliments, comme la séparation entre les païens et les juifs, etc. Essayez de découvrir une spécificité, marquer cette spécificité. Elle se marque par l'habillement, par la nourriture, ou par la manière de prendre sa nourriture. C'est-à-dire des choses qui sont liées à la personne humaine, de façon très proche, et qui sont typiques de la personne. Manger et manger d'une certaine manière, s'habiller et s'habiller d'une certaine manière. Nous allons voir d'ailleurs, tout ça vient dans les textes. Bon. Et ils furent achevés. Un passif. Bayoukoulou. Et ils furent achevés. Les cieux et la terre. Vous voyez bien que cieux et terre disent une totalité. C'est ce qu'on appelle des concepts polaires. C'est-à-dire, comme vous dites, la tête et la queue, pour dire toute la réalité, de la tête jusqu'à la queue. Ils furent achevés les cieux et la terre, c'est-à-dire le tout du cosmos, et toute leur armée. Intéressant de voir que ces meubles-là sont considérés comme des armées. Leur armée, c'est toute leur ornementation, le Bataclan. Ils furent achevés. Et puis, et il acheva. Étrange, on reprend le même mot, ils furent achevés, et il acheva. Et il acheva Dieu au jour le septième, c'est la première fois que nous avons le. L'article mis à peu près d'un jour, c'était le jour deuxième, le jour troisième, le jour quatrième, non, le jour le septième. Ce sont des toutes petites choses, mais c'est l'accumulation de ces tout petits détails qui finissent par vous donner une coloration au texte. Et il acheva Dieu, au jour le septième, son ouvrage qu'il avait fait. Et il arrêta, ou il chôma, Shabbat. Shabbat, ça veut dire chômer. Arrêter un travail, quoi. Et il chôma, au jour le septième, de tout son ouvrage qu'il avait fait. Il met un point final. Comme le peintre appose sa signature à son œuvre. Voilà, maintenant, on peut vendre. Il arrêta au jour le septième, il reprend, de tout son ouvrage qu'il avait fait. Et il bénit Dieu le jour le septième. Troisième fois qu'il répète le jour le septième. Et il bénit Dieu. On bénit un jour, c'est étrange. Alors, il faudrait savoir ce que c'est que bénir. On va voir. Il bénit Dieu le jour le septième et il le sanctifia. Il y met quelque chose de lui. Un supplément d'être qui vient de lui, en quelque sorte. Il le sanctifia. Le saint, c'est Dieu. Car en lui, ce jour-là, il arrêta. Sanctifier ce jour, c'est en même temps arrêter, chômer. Étrange, ça fait. Car en lui, il arrêta de tout son ouvrage qu'il avait créé pour faire. Ce n'est pas comme ça que vous avez dans vos traductions, Mais enfin, je vous lis la traduction tout à fait littérale. Il les avait créés pour faire.
Je crois.
Là, vous pouvez aller voir, j'ai le. Ah, mais il est au-dessus. Vous pouvez voir le texte hébreu, c'est comme vous voulez. De tout son ouvrage qu'il avait créé pour faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait créé pour faire. Mais on a dit qu'il avait fait, puis qu'il avait créé, et maintenant il a créé pour faire. Et c'est lui qui doit faire? Ou bien est-ce que c'est le travail doit être continué et achevé par les autres. Ah voilà, peut-être bien qu'il y a quelque chose dans ce sens. Et puis, conclusion de tout, ceci, ou tels sont, ceci, sont les engendrements des cieux et de la terre dans leur être créé. Voilà. Ce sont les engendrements du ciel et de la terre dans leur être créé. Dans leur être créé. Et ils furent achevés, leur être créé. Deux passifs. Donc voilà le texte. C'est un poème, ce texte. Et c'est un poème qui est bien construit, comme vous le voyez, hein, qui a sa logique. Et il y a, je ne vous l'ai pas dit, mais enfin je vous l'ai noté, il y a 10 paroles. 10 fois Dieu dit. Dès la tradition juive, déjà, hein, il voit dans ces 10 paroles une sorte de réplique d'annonce des 10 paroles, réplique, quand on sait que les 10 paroles du Sinaï existaient déjà, mais ou d'annonce, dans le texte ici, il y a une annonce, puisqu'on n'a pas encore parlé des 10 paroles de la Torah. Donc il y a une sorte de Torah, de loi fondamentale de la création donnée par Dieu. Bon, essayons maintenant, si vous voulez bien, de regarder ce texte un tout petit peu plus près. En commencement, qu'est-ce que c'est que commencer ? Je commence à écrire. Je commence à parler. Dieu a-t-il commencé? Comment voulez-vous que Dieu commence? Difficile, hein? Si Dieu est Dieu. Pour le juif, Dieu, ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Dieu est là, il existe. Vous connaissez l'histoire, je crois que je vous l'avoir déjà raconté, hein, de ces deux rabbins qui étaient depuis longtemps intrigués par ce Dieu qui est comme ça, pas placé au début, on ne sait pas d'où il vient, d'où il sort, au commencement ou en commencement, Dieu créa. Et ils mettent des mois et des mois à discuter, hein, pour savoir, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Ou bien est-ce que c'est une manière de s'exprimer de l'homme? Est-ce que c'est l'homme qui pose Dieu? Ou bien est-ce que c'est Dieu qui se pose? Et après avoir discuté, après avoir réfléchi les uns, l'un et l'autre, ils en arrivent après quelques années de discussion, à compulser le Talmud, etc., à la conclusion, Dieu n'existe pas. Dans l'affaire, Dieu n'existe pas. Ils disent, on va fêter ça, et ils vont au café, ils prennent un verre de bière pour fêter le fait que Dieu n'existe pas. Décision qu'ils venaient de prendre. Et voilà un de leurs amis, un autre rabbin qui arrive, qui passe par là, il l'invite. Ils lui disent, fait une découverte sensationnelle, mais elle est appuyée par des arguments solides. Dieu n'existe pas et nous fêtons son inexistence aujourd'hui par ce verre de bière. Alors voilà, on fait servir un troisième verre de bière. Et puis, les deux juifs lèvent leur verre de bière. Le Chaim, à la vie, Baruch Hashem. Dieu soit béni. Mais il dit le troisième, mais vous avez dit que Dieu n'existe pas. Bien sûr que Dieu n'existe pas. Mais qu'un juif lève son verre sans rendre grâce à Dieu, ça n'existe pas non plus. Je ne sais pas si vous comprenez tout le jeu de cette finesse.
C'est tout leur drame avec la terre d'Israël pour les affliger.
Ah, et bien sûr, Dieu n'existe pas. Je ne sais pas qui il est, mais je connais sa volonté. Il y a plusieurs juifs qui m'ont déjà dit ça. Je ne sais pas qui il est, Dieu. Mais je connais sa volonté. Oui. où vous avez cette expression qui a été reprise par Lévinas dans Difficile Liberté, un beau chapitre. Hein? J'aime Dieu, mais j'aime la Torah plus que Dieu. Mais oui, parce que Dieu, je ne sais pas qui il est. Je ne l'ai pas rencontré, vous voyez. Alors, dire j'aime Dieu, je ne sais pas ce que je mets au bout de j'aime. Tandis que sa Torah, là je l'ai rencontrée, elle m'a donné. Ça c'est objectif. Et donc, quand je fais la Torah, quand j'observe la Torah, j'observe la volonté de Dieu. Quel qu'il soit, m'a dit un jour un juif. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, je fais sa volonté. Et vous voyez, c'est intéressant de voir comment ça travaille dans sa tête. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, je fais sa volonté. Hein? Ça veut dire, je n'ai pas les traits de son existence, je n'ai pas de visage concret lorsque je parle de Dieu. C'est ça qu'il veut dire. Mais oui, bien sûr. Mais il dit ça comme ça. Hein? Je ne connais pas sa nature. Mais son existence, je ne peux jamais mettre la main dessus. Je n'en possède pas, je ne peux pas dire Dieu c'est ça. Mais il me donne en moi-même, par ses 10 paroles ici, et dans ma manière de vivre sociale, par les 10 paroles du Sinaï, il me donne un mode d'emploi de mon existence. Mais il ne dit pas qui il est. Dans la Bible, je ne peux savoir qui il est qu'à partir de ce qu'il fait. Jésus va révéler l'intimité de Dieu et va lui donner un visage. C'est intéressant aussi quand même, hein? Mais le juif, pour le juif, je ne peux pas lui mettre de visage. Sinon, l'homme. Et c'est pour ça, puisqu'il est image de Dieu, je ne vais pas fabriquer d'autres images. Je ne vais pas représenter l'homme. Ce serait vouloir mettre la main sur l'image de Dieu qu'est l'homme. Vous voyez pourquoi, ni dans le judaïsme, ni dans l'islam, on ne représente la figure humaine. Je sais bien que dans le judaïsme postérieur, on va le faire, on va l'accepter, mais enfin, initialement, c'est comme ça. En commencement. Donc le commencement, s'il n'est pas en Dieu, il est en l'homme. En commencement, Dieu créa. Il créa. Oui, dans cette phrase, hein, et dans le ciel et la terre, c'est-à-dire la totalité, il y a déjà je n'existe ou je ne puis exister, ou le monde ne peut exister que par Dieu. L'homme commence, le monde commence, mais il commence à partir de Dieu. Il tire son commencement, il tire son origine à partir de Dieu. Et il y a une différence entre origine et commencement. L'origine, c'est d'où je viens. Le commencement, c'est comment je le sais. Je sais d'où je viens. Je commence. Et commencer est un acte positif. L'origine m'est donnée. Et ici, on me dit les choses comme si on les avait vues.
Répète un peu la différence entre origine et commencement.
L'origine. Mon origine, elle m'est donnée. C'est un don. C'est un donné, mais un don. Et le commencement, je commence. Vous avez ça dans l'évangile de Saint Luc. Vous avez d'abord les origines de Jésus, qui est à la fois fils de Dieu et fils d'homme. Et il commença, Jésus, à l'âge de 30 ans, il commença. Là, il y a une initiative prise par l'homme, commencer. Je commence. D'ailleurs, on peut traduire aussi le premier verset de la Genèse d'une autre manière. Et vous voyez que certaines traductions le prennent. Lorsque Dieu commença à créer le ciel et la terre était vide et chaos et ténèbres sur la face d'un abîme. Et souffle de Dieu frémissait sur la face des eaux. On peut traduire ça comme ça. Quand il commença. Mais c'est difficile, vous voyez, parce qu'on met une sorte de commencement en Dieu. C'est terrible, ça, de savoir. Est-ce que Dieu a toujours créé, ou est-ce que Dieu a créé à partir d'un certain moment? si Dieu est créateur, hein, saint Thomas se pose la question, mais il est créateur depuis toute éternité. Hein.
Oui. Même si c'est toute éternité, on peut dire que c'est une initiative.
Évidemment. Ce qui est important, c'est pas que c'est initiative de Dieu, et que ce n'est pas initiative de quelqu'un d'autre que Dieu, puisque il n'existe personne d'autre. Alors, vous voyez toutes les questions qui se posent, hein, créer. Hein, on dit dans la théologie que Dieu crée, hein, les choses, le monde, etc., ad extra, c'est-à-dire vers l'extérieur. Le fils n'aime pas cette expression-là. Qu'est-ce qu'il y a d'extérieur à Dieu ? S'il y a quelque chose d'extérieur à Dieu, il y a autre chose que Dieu. Hein ? Bizarre, hein ? Mais enfin, c'est comme ça. Donc, Dieu ne peut pas créer ad extra.
S'il n'a rien d'extérieur à Dieu, c'est du panthéisme.
S'il n'a rien d'extérieur à Dieu, c'est du panthéisme. Compliqué. Compliqué. Alors, vous voyez, c'est évidemment pour ça que la tradition catholique parle d'ad extra. Ça veut dire que hein, c'est pas la matière, c'est pas l'homme, c'est pas la nature qui est divine. Mais que Dieu est personnel et qui crée l'homme face à lui, en quelque sorte, comme un vis-à-vis. Ça va revenir, le vis-à-vis. Hein? Drôle d'affaire, ça. On ne peut pas dire que tout soit Dieu et dire que Dieu crée à l'extérieur de lui-même, c'est pas tout à fait juste non plus. Alors, le juif a trouvé une bonne image, une analogie. C'est l'analogie de la maman. Elle va mettre au monde un être en elle. Il va devenir extérieur à elle, mais il est d'abord en elle. Et donc, la maman va lui laisser la place dans son ventre. Et elle va s'effacer devant cet enfant à qui elle donne vie, qu'elle bénit, autrement dire, hein, à qui elle donne vie, mais en elle. En elle, et pourtant extérieure à elle. Mais en elle. Oui. Cette analogie n'est pas mauvaise. Et souvent, dans la théologie juive, pardon, je ne peux pas parler de théologie juive. Là, je ne peux pas parler de théologie juive parce que théologie, c'est-à-dire dire un mot sur Dieu. Logos, théou. Alors, je ne peux pas, puisque Dieu n'a pas dit qui il était. Donc, je ne peux pas faire de théologie. Je peux faire une philosophie. Pour vous dire que les mots sont utilisés, hein, j'utilise à dessein certains mots, ouais, ils sont utilisés chez nous dans un certain sens, et ils sont ou ne sont pas utilisés ailleurs, dans un sens un peu différent. Créer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire établir une dépendance. Mais une dépendance constitutive. Hein? Je suis dépendant de Dieu, mais je suis constitué par lui. Il me fait la place. Il me fait la place en lui. Et pourtant, je suis extérieur à lui. Et c'est, vous voyez très bien que dans ce texte, c'est l'homme qui réfléchit sur ce qu'il est. Il ne nous dit pas comment les choses se sont passées. Il nous dit, voilà, au commencement, pour un commencement, j'ai commencé en étant créature de Dieu. Et qu'est-ce qui crée ? Cieux et terre. Monte d'en haut et monte d'en bas. Cieux, mer, ici c'est terre. Le dessus et le dessous. Il ne faut pas mettre les choses sans dessus-dessous. Il faut bien garder ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous. Hein. Les cieux et la terre. Les juifs vont traduire. Bon, le ciel, c'est le monde de Dieu, c'est ce qui est bon. La terre, c'est le monde de l'homme, là tout n'est pas bon. On va le dire d'ailleurs hein, à propos de Noé que l'homme était mauvais depuis sa jeunesse. Et alors vous verrez dans certains commentaires, hein, des rabbins qui vont dire, en commencement, Dieu créa le bon et le mauvais. C'est-à-dire la totalité, la réalité telle qu'elle est. Il en est responsable. De tout ce qui existe, il est le responsable. Et il vit que c'est très bon. Il vit que c'est bon, 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 il vit que c'est très bon. Et mais c'est important de se rendre compte que la création est considérée comme la bonté. Et c'est Dieu, hein, qui le remarque, ce que c'est bon. C'est pas nous, c'est lui. Il voit que son être, que ce qu'il fait, ça, son agir, son ouvrage est bon. Donc ça donne une intention, ça, hein, ça exprime son intention. Alors vous voyez, la question qui va se poser et qui va venir au chapitre 2, ben alors d'où vient le mal, si nous disons le mal, si tout est bon. Et donc on vous dit que la terre était vide et chaos et ténèbres sur la face d'un abîme, tout ça c'est une sorte de négatif. Il ne faudrait pas dire qu'il y a comme une matière préexistante. C'est pourquoi, dans la théologie chrétienne, on a parlé que de la créature à partir de rien. Créer, c'est faire de rien. Curieuse, hein? Curieuse expression, hein? Faire à partir de rien. Faire du positif à partir... Non, c'est même pas du négatif, c'est du rien. Drôle de manière de s'exprimer, hein? Mais enfin, il faut bien dire les choses. Alors, ici, il dit c'était vide, c'était chaos, c'était désordre, c'était... Mais quoi qui était désordre? Mais rien. Et c'est un concept négatif pour mettre en évidence le positif qui va venir après. L'ordre. Il va régner de l'ordre. Qu'est-ce qu'il y avait s'il n'y avait pas d'ordre? Il y avait du désordre. Oui, mais le désordre, c'était quoi? Mais rien. Rien.
Rien, rien, c'est le mot vide.
Mais ils mettent justement tout, vous voyez, le vide, pour nous c'est un concept, faire le vide, nous enlevons tout gaz, le plus possible de gaz dans certains espaces. Mais ici non, ils ne réagissent pas comme ça. Ce terme, hein, chaos et vide, ou tohu-bohu, qui revient d'ailleurs chez Isaïe, hein, tohu-bohu, ça veut dire... Oui, je ne peux dire que ça, le négatif du positif qui va venir après. On établit en négatif quelque chose, vous allez voir, ça va revenir au chapitre 2, mais d'une autre manière, avec d'autres images. Hein? C'est pas rien.
Tohu-bohu, c'est bien sûr chaos, désordre, bien sûr.
Vide.
Vide.
Vide et chaos.
Parce que c'est un mot qui ressemble étrangement à bing-bang. Tohu-bohu, bing-bang.
Oui, mais ça... bing-bang... un choc initial. C'est-à-dire que tohu-bohu, c'est très différent. C'est précisément pas un choc initial, c'est précisément pas une détermination, c'est l'absence de détermination. C'est juste le contraire.
C'est comme vous dites, quelqu'un qui a des défauts, en fait, un défaut, c'est rien du tout.
C'est
un défaut.
Défaut.
Fait défaut, il a des défauts.
Il a des défauts.
Il paraît qu'on t'a créé chamois.
C'est
rien, c'est rien.
C'est des défaille. Défaille, oui. Pardon? Pardon?
On ne comprend rien comme rien en dehors de Dieu.
Mais oui, mais ce n'est pas le mot rien qu'il utilise, justement. Nous avons traduit. Création ex nihilo, ça veut dire il crée à partir de rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est, il est tout. Il est tout. Mais nous avons trouvé ce concept bizarre de créer à partir de rien. Mais il ne dit pas rien. Évidemment, dans les cosmogonies mésopotamiennes ou égyptiennes, voire grecques, dans ces cosmogonies, on parle d'un démiurge, démiurgos, c'est-à-dire d'une sorte de demi-dieu ou de dieu inférieur, si vous voulez, qui ordonne une matière qui lui a été donnée primitivement. C'est un ordonnateur. Mais ici, non, c'est Dieu qui fait tout.
Est-ce qu'on pourrait dire que Dieu tire de sa propre nature l'ensemble de la nature, mais tout?
Ne dira pas ça, la Bible ne dit pas ça. Hein, parce que ça va être un concept que vous allez trouver chez les Grecs, hein, qui va être l'émanation. Hein, Dieu va comme lancer des étincelles, comme le soleil, hein, lance de la lumière. Et justement, Alors que ces termes sont exprimés, ces idées sont exprimées dans le vocabulaire sumérien, par exemple, mésopotamien, non, pas ici. Et le langage échappe à quelque chose. Nous voudrions le rendre le plus précis possible, et nous voyons que on ne peut pas poigner dedans, il y a toujours quelque chose qui échappe. Et c'est intéressant de voir cela, oui. C'est vrai. C'est vrai. Nous ne pouvons pas penser en dehors de l'être dépendant que nous sommes. Et je dis bien dépendant que nous sommes. Parce que je ne me suis pas donné l'être. C'est ça qu'il veut dire. Mais il le dit de façon que nous pouvons appeler grossière, mais qu'il n'est pas tellement. Et alors, vous voyez, ça commence par la parole. Nous parlons de parole de Dieu, c'est intéressant de voir que Dieu dit. À qui dit-il ? Dire, c'est exprimer. Quand on exprime pour quelqu'un, généralement, il dit. Parle tout seul. Des enfants qui disent comme ça, quand on lit ça avec eux, tiens, il parle tout seul, Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, parler tout seul? Dieu dit. Et il dit quand même des choses sensées, qui n'ont pas l'air d'être d'un vocabulaire divin hermétique. Soit lumière, que la lumière soit lumière, et fut lumière. Comme un écho. Yehi, or, va yehi, or. C'est, en hébreu, ça sonne exactement de la même manière. Soit lumière, et fut lumière. Donc ça vient. Et ce fut ainsi, on va dire après. Ici, simplement, et fut lumière. Et puis après, on va traduire par et fut ainsi. Et tout de suite, Dieu signe son ouvrage. Dieu seul est bon. Moi, Jésus le dit. Bon maître, que je dois faire pour avoir la vie éternelle. Pourquoi m'appelles-tu bon ? Dieu seul est bon. Dieu seul peut détecter ce qu'est le bon. Intéressant de voir ça dès le début. Il vit la lumière, c'est bon. Et puis, quand il a dit ça, vous voyez, la parole va séparer. Naissance de la parole. Ici, les psychanalystes, ils sont heureux. Ah ben oui, parce que c'est la parole qui va justement exprimer le confus. Notre vie est confuse, nous ne savons pas quels esprits nous mènent. Et justement, c'est en nous disant, c'est par la parole et par l'expression la plus concrète possible et la réflexion sur la parole que l'homme va prendre conscience de tous ces refoulements, de ces pulsions qui sont tohu-bohu en lui. Et je vous en dirai un mot d'ailleurs, la manière dont les psychanalystes lisent ce texte qui est intéressant. Et donc il opéra séparation. Par la parole, ils se mettent à séparer. Lumière et ténèbres, ce qui est clair et ce qui n'est pas clair. Il opère séparation. Le Ravdil. Et le terme, justement, opérer séparation, je vous l'ai déjà dit ce matin, est un terme liturgique. Opérer une séparation, c'est une expression qui est tirée de ce qu'on appelle la Havdalah. Havdalah, qui s'écrit comme ça. Havdalah. B, D, L, ce sont les racines hébraïques. B, D, L, ce qui veut dire séparer. Faut-il dire séparer ou faut-il dire distinguer? Le terme est plutôt une séparation. Mais Havdalah, c'est la cérémonie du samedi soir, quand on va entrer dans les jours de la semaine, le sabbat terminé, au coucher du soleil le samedi. Le père de famille met un peu d'encens dans un petit récipient, une sorte de petit encensoir miniature, un peu d'encens, et il fait brûler cet encens, un peu d'encens sur de la braise, il fait brûler cet encens, il fait respirer le parfum du sabbat à toute la famille. On va quitter le sabbat, on va se séparer du sabbat, et on va entrer dans les jours de la semaine avec la senteur, le parfum du sabbat en soi. Ce qu'on respire, c'est de prendre en soi, hein, avec le parfum du sabbat en soi. Donc on va vivre les jours de la semaine en sabbaté, en quelque sorte.
Ça correspond à l'idée mystère.
Oui. Oui. Tout à fait. C'est une séparation qui unifie. Une séparation qui unifie.
Pourquoi séparation ?
Mais c'est-à-dire, on distingue. Hein? Alors, on dirait, bon, si vous voulez unifier, il ne faut pas de séparation. Mais non, au contraire. Pour reconnaître quelqu'un qui est différent comme ayant quelque chose de commun avec moi, j'ai besoin d'abord de le poser différent, de le poser en dehors. J'ai besoin de le dire. J'ai besoin de lui crier un nom, de le situer. Regardez l'enfant qui apprend à parler, c'est extraordinaire. Hein? L'enfant qui apprend à parler, qui balbutie, et au moment où il peut signifier vraiment ou dire le mot tel qu'il existe, il a une victoire, il sent une victoire. Quelque chose qui s'est passé. Il peut désigner papa, on sait qu'il est papa. Et on lui fait reconnaître, hein? On lui montre une photographie, et où est papa? Papa, maman. Et c'est, pour l'enfant, c'est quelque chose de... Hein, c'est vraiment un progrès. Vous voyez, la parole, désignée par la parole. C'est cette expérience-là qui est exprimée ici. L'accession à la parole, bien sûr c'est l'homme qui accède à la parole, mais on lui fait voir les choses à partir de Dieu. C'est Dieu qui parle, et c'est l'homme qui entend. Il opère la séparation entre lumière et ténèbres. Il désigne lumière comme lumière, ténèbres comme lumière. On sait ce qu'il faut. On a des repères, comme on dit. Justement, ne plus avoir de repères, c'est perdre pied.